When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Auclair qui est auteur mais également producteur au sein d'Aloda Film qui est en vrai partenariat avec Media One. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Donc
Alexis.
On est ravi de t'avoir. Alors c'est vrai que tu m'as dit un peu en off aussi ta vie, donc on a eu déjà des producteurs, on a eu Sidney Gallon de signaler. Ça a démarré par une passion, toi, une école de commerce, mais l'envie de travailler dans ce métier, en fait.
En fait, j'ai toujours eu envie de bosser dans ce métier depuis que je suis adolescent, dans l'écriture, dans la production ou la réalisation. Mais à l'époque, mon père m'a dit « Ouais, c'est gentil ton métier, mais bon, fais une école de commerce, fais un boulot sûr au cas où. » Donc, il m'a fait faire une école de commerce, qui était tout à fait normal à cette époque-là. Mais pendant l'école de commerce, avec une bande de copains, on a produit un film qui nous a d'abord permis de se frotter au milieu de la production. C'était un film sur l'histoire du film publicitaire.
D'accord.
Donc, on a interviewé tout un tas de grands publicitaires, y compris les Blushton, Blanchet, les Seguela et des mecs comme
ça.
Donc, c'était assez intéressant.
C'était un peu à la Christian Blachas, à la CB News.
C'était un peu ça. C'était en fait un documentaire sur l'histoire du film publicitaire. On avait été chercher des films qui dataient de les tout premiers, je ne sais plus, 1800 et des poussières.
Sympa, ça.
Donc, c'était assez marrant. Et ça m'a donné beaucoup de contacts dans le métier, ce qui fait qu'après mon tour du monde que j'ai fait après mes études, en revenant, j'ai contacté pas mal de gens et je suis rentré directement dans ce métier-là parce que c'était un métier de passion et je ne m'imaginais pas faire autre chose. Et à ce jour, j'ai plus tout à fait le même âge, mais je suis plutôt content parce que j'ai fait le métier que je voulais faire.
C'était un métier de rêve un peu, de passion.
Oui, voilà, des métiers qu'on a envie de faire. Et le matin, on se lève et on ne va pas bosser, on va faire des films.
Tu as creusé un peu ton sillon. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais aussi un passionné de photos, que tu avais un très fort Instagram.
Ça, c'est plutôt passion perso. J'ai beaucoup de passion sur le côté. La photo en est une. Je ne cherche pas à en vivre parce que j'ai un métier qui me prend tout mon temps, mais la photo est une de mes passions absolument.
D'accord. Et alors les grands livres, donc ça tu as parlé un peu du démarrage et alors après un peu le développement avant d'arriver à Aloda, et je crois que tu as eu aussi une vie de scénariste et de producteur, tu as la double casquette qui n'est pas toujours fréquente en France, j'allais dire lapsus aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis souvent le prod il a le côté créatif et writer, je dirais. En France, un peu on dissocie. Toi, tu as un peu les deux, quoi. Création
et prod. J'ai un peu les deux parce que donc, j'ai démarré dans le métier en tant que vendeur de films, tout bêtement, parce que ma seule porte d'entrée, c'était le commerce. J'avais un diplôme d'école de commerce. Et donc, je suis rentré chez Yves Rousset-Roire, qui était à l'époque un grand producteur de cinéma.
Les Bronzés, quand même.
Les Bronzés 1 et 2, les Emmanuels 1, 2 et 3. Et quand je rentrais de la Polynésie, où j'avais passé un an, c'était mon tour du monde, lui, il partait là-bas pour tourner L'île de Robert Merle en film et en série. Et il m'a engagé pour être son vendeur de films. Il avait un catalogue de films. Et donc, 4 jours après, je partais sur les marchés dans le monde entier, à Cannes, à Los Angeles, à Milan, à Rio de Janeiro, en Russie, pour aller vendre ces films qui ne se vendaient pas bien. J'ai quand même fait la dernière vente de l'Emmanuel numéro 1, qui maintenant est un soporifique incroyable, comme quoi les mœurs ont vraiment évolué. J'ai vendu ça à Taïwan, à des acheteurs taïwanais. Ça devait être à Cannes, au marché du festival, avec des gars qui regardaient ça, qui disent « on va flouter tout ce qui est à flouter. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Emmanuel, c'est là où on s'aperçoit que les mœurs ont vraiment changé. Emmanuel, alors moi, j'ai bossé bien longtemps après dans sa boîte, mais c'est sorti en 73. C'est resté 13 ans sur les Champs-Élysées. 13 ans, c'est quand même insensé. Et c'était à l'époque une révolution sexuelle, si je puis dire. Et quand on voit le film de nos jours, il y a plus de sexe dans les pubs pour Tahiti Douche que dans Emmanuel. Donc ça
c'était
montre vraiment.
Sylvia Christel.
C'était Sylvia Christel.
La comédienne.
Et ça m'avait fasciné parce que Yves Rousset-Roire était vraiment un producteur, entrepreneur. Il avait acheté les droits du livre d'Emmanuel Arsan pour 2000 francs. Dans son bureau, il y avait un cadre avec le chèque dedans. Il avait fait le film pour 400 000 francs. Et il n'avait pas mis son nom dessus, parce qu'à l'époque, c'était quand même, c'était pas du porno, mais c'était quand même de l'érotique.
Il l'assumait moyennement.
Il se disait, si jamais ça fait un carton, on me trouvera. Puis si ce n'est pas un carton, on ne saura jamais que c'est moi. Et le film est produit pour 400 000 francs, ce qui est trois fois rien. Et le film, il le vend au forfait au Japon, à Nippon Herald Distribution, mais au forfait, donc à 100 000 francs. Et le film fait un tel succès au Japon à l'époque que la Nippon Herald se construit un building de genre 60 étages et lui, il ne touche que 100 000 francs parce qu'il a vendu au forfait. Et il m'a donné deux, trois leçons vraiment intéressantes. Yves, il m'a dit... il faut toujours se laisser une porte ouverte au succès dans le métier, c'est-à-dire un pourcentage sur ce qui peut se passer après. Parce que
c'est lui, l'école George Lucas.
C'est un peu l'école George Lucas, parce que lui, bah Emmanuel, un, qui a fait un carton mondial, il n'a jamais gagné d'argent dessus. Alors, il s'est rattrapé sur le 2 et le 3, puis après, ils ont arrêté. Et j'ai appris que je ne sais pas quelle boîte refait des Emmanuel maintenant, là, en mode un peu James Bond. Il m'a appris ça et il m'a appris aussi, il m'a dit, dans ce métier, ça rapporte plus d'être honnête que d'être malhonnête. Et je le crois volontiers. Je suis une nature honnête, mais c'est vrai que c'est un métier de droit et je trouve qu'il avait raison. Ça rapporte plus d'être honnête que d'être malhonnête.
Combien d'années tu as fait ce métier de vendeur ?
Alors, j'ai fait ça 3-4 ans. Ensuite, j'ai
sillonné... Un peu comme... D'ailleurs, il y a des grands qu'on fait comme toi. Je crois Alain Goldman, il a démarré comme toi sur les ventes de films.
J'espère avoir son dessin.
Et il y avait un autre, un super producteur américain... Carol Co, Mario, les mecs de les prods de Terminator, démarré que sur ton métier, donc c'est pas mal parce que tu vas dans les marchés,
Moi, je me souviens avoir présenté un film de Yves au festival de Moscou avec un traducteur russe qui en bas de l'écran faisait toutes les voix. J'ai été au festival de Rio, j'avais vécu à Rio quand j'étais adolescent, mais pour présenter des films qui se vendaient pas. Enfin, c'est une manière de voir un peu tout ce qui se passe, intéressante. Et après, lui, il a vendu sa boîte. Parce qu'il avait une offre du GC, il a vendu sa boîte, en fait, ses films extrêmement chers.
Comment s'appelait sa structure ?
C'était Trinacra.
C'est drôle que tu le mentionnes parce qu'on a reçu Patrice Lecomte et je sais que c'est un monsieur important pour lui parce que c'est quand même un peu lui qui l'a lancé.
Bien sûr.
Et
bien
Les
sûr.
Bronzés, c'est quand même le film qui cartonne le plus à la télé depuis Lurette.
À chaque fois qu'il est passé Bronzé, ça fait un carton, alors que c'est un film qui a au moins, je sais pas, 30-40 ans.
Il adore aussi le Bronzé 1. Oui, il
est...
Surtout le Bronzé, les faux du ski, qui est quand même, je trouve, le.
Oui, il a fait les deux.
Il a fait les deux.
Et donc, c'est vrai que c'était intéressant. Après, il a vendu sa boîte. Et j'ai le souvenir amusant, c'est que UGC voulait racheter son catalogue de films. C'était la grande époque où les producteurs vendaient leur catalogue pour des sommes astronomiques. Et moi, j'ai été un jeune employé. J'avais l'âge, je ne sais pas quel est ton prénom, mais j'avais grosso modo ton âge. Et je l'emmène à UGC avec ma petite 4L verte parce qu'il allait chercher le chèque de sa vente. Et moi, j'attends en bas, je fais chauffeur et il redescend en voiture et il me montre un chèque. Il avait marqué 50 millions de francs. C'était des francs, mais en 86, c'était grosso modo 50 millions d'euros maintenant. Wow. Et c'était la première moitié de sa vente, les 50%. Et moi, je dis naïvement, Yves, où est-ce qu'on va au bureau ? Il me dit, non, à la banque peut-être. et donc, il a viré tout le monde parce que ça devenait son argent. Et puis, il a reçu tellement d'argent qu'il n'avait plus la patate pour faire des films. Je l'ai vu 2 ans après, il était en déprime. J'ai dit, Yves, ça va pas, non ? Vous avez 100 millions en banque. Et après, il s'est remis. Et il avait en effet plus l'avenir de faire des films sur lesquels il allait gagner 200-300 000 balles alors qu'il avait rentré beaucoup, beaucoup d'argent.
C'est incroyable que tu parles de lui parce qu'il est moins mentionné que les Claude Berry ou d'autres grands producteurs alors qu'il a eu un destin apparemment.
Je l'ai revu l'été dernier, il n'a pas changé.
Il a quel âge ? Il doit avoir une quatrantaine d'années.
Exactement, mais il a la même énergie, la même lumière en lui. Il est assez formidable. Moi, j'adore ce monsieur. Il m'a beaucoup, beaucoup appris parce que j'étais un peu son homme à tout faire. Il m'a beaucoup appris. Et après, il m'a casé en tant que jeune producteur chez Monique Hanau, qui était donc l'ex-femme de Jean-Jacques Hanau et qui a fait plein de trucs formidables comme les comédies américaines qu'on tournait à Paris avec des scripts américains. Et comme elle ne parlait pas anglais, elle m'avait dit « vous occuperez de tout ce qui est américain ». Donc j'allais à Los Angeles tous les 2 mois pour faire les recherches de scénarios, les castings, parce qu'on avait des acteurs et actrices américaines. Et donc on en a produit 12 comme ça.
Dont les films de Jean-Jacques Hanau alors ?
Non, ça, elle était sur d'autres films. Jean-Jacques Hanau, elle n'a jamais fait les films de Jean-Jacques Hanau. Elle a fait des comédies romantiques. Le principe qu'elle avait inventé était très malin. C'était de dire, on va tourner des comédies romantiques, on va chercher les scénarios en Amérique parce qu'il y a énormément de scénarios libres sur le marché. Mm-hmm. Tout fait, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc moi j'allais là-bas et on a lu, je ne sais pas, des centaines de scénarios. Et on achetait des scénarios qui étaient facilement transposables à Paris. D'accord. Et on castait que 2 stars américaines. Moi, j'ai quand même tourné avec Carrie Fisher, Princesse Leila. J'ai tourné avec Rob Lowe. J'ai tourné avec Beau Derek, qui ne dit plus rien aux jeunes de nos jours, mais qui était quand même à un moment la plus belle femme du monde.
L'acteur des 70s. Hein,
voilà, moi, je me suis retrouvé à emmener dîner Beau Derek au restaurant le soir de son arrivée à Paris. On a eu Rosanna Arquette, la fille du Grand Bleu. Enfin, on avait tout un tas de castings. Et je m'en occupais parce que Monique ne parlait pas anglais. Mais pareil, elle m'a appris plein de trucs. Et mon désir d'écriture, il était là depuis longtemps. J'écrivais quand j'étais adolescent, je ne vous ai pas le montré. Et en travaillant sur des comédies romantiques comme ça, j'en ai écrit une avec un collègue. On a écrit un scénario. Et puis à un moment, je l'ai laissé traîner sur mon bureau de la boîte où je bossais, donc chez Monique Hanau. Et un jour, elle m'a fait un coup qui a été une bascule. C'était intéressant. Elle m'a dit « Bon, venez dans mon bureau, j'ai un truc pour vous. » Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et puis une bonne nouvelle. Et moi, je me voyais, j'étais dans cette boîte depuis 4-5 ans. Je voyageais sans arrêt à Los Angeles et tout. Et je me voyais à vie dans cette société, ce qui n'a pas de sens dans mon métier. Et elle me dit « j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour vous. » Bon, par quoi je commence? La mauvaise. La mauvaise, c'est que je vous vire parce qu'on va fermer la boîte. Bon. Ah oui, c'est une mauvaise nouvelle, ça c'est pas bien. Et la bonne, la bonne, c'est que j'ai pris votre scénario sur votre bureau, on l'a lu, il est formidable, on l'a envoyé à Canal et c'est le dernier film qu'on va produire. On va vous l'acheter et on va le produire.
Ah oui, et comment il s'appelait ce script alors?
C'était une comédie qui s'appelait Paddy Folia, qui était un titre un peu bizarre, qui s'est tourné sous un autre titre, qui s'avérait être pas bien, mais ça a été tourné, Canal Plus l'a fait.
C'était long ou télé?
C'était un téléfilm prestige, téléfilm. Très cher, ça se tourne dans les îles, donc c'est, et ça c'est... Je ne sais plus le titre final, mais ce n'était pas bien. Mais ça a été ma bascule où j'ai vendu un premier scénario.
Là, tu avais quoi, une trentaine dans les 30
À peine, ouais, à peu près. Et je me suis dit, tiens, et Albert Mathieu, qui était à l'époque le patron de la fiction à Canal, il m'a dit, vous avez un truc avec l'écriture. Et un jour, j'avais croisé Édouard Molinaro qui m'a dit, si vous écrivez bien, les gens vous paieront de l'or. J'avais compris, enfin, à ce moment, j'ai compris que l'écriture, en effet, est la racine de nos métiers.
C'est ce qu'il disait Gérard Jugnot aussi. Les idées, c'est le pétrole. Il dit que tout part des idées et de l'écriture. Donc là, tu t'es dit, je veux un peu plus aller vers le scénar que la prod.
Bah oui, parce qu'avant, j'avais écrit des bouquins, des machins, mais je n'osais pas les montrer ou personne n'en voulait. Et là, le fait que tout d'un coup, une boîte achète le scénario,
oui, c'était vraiment, une preuve d'intérêt fort.
Et le produit, c'était qu'il y avait un truc possible. Et donc là, j'ai basculé. Alors, j'ai fait un court passage chez Simone Harari.
Oui,
qui est aussi une grande du métier, qui voulait qu'on refasse les comédies de la même manière, mais comme les quotas français avaient changé, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Et après, j'ai basculé vraiment à l'écriture. Et là, en écriture, j'ai écrit à la SACD, je crois, j'ai une centaine de titres en répertoire, donc j'en ai fait beaucoup. Jusqu'au moment où une boîte m'a proposé d'écrire une série et de la produire. Et ça, c'était dans les années 2000, je crois, il y a un moment déjà.
Okay.
C'est Marathon pour qui est une boîte maintenant qui a été absorbée par Bene & Jai. C'est Pascal Breton qu'on connaît bien, qui est vraiment qui est un génie du métier. Il m'a proposé d'écrire une série. Ils avaient vendu le principe à M6 de faire une série en Afrique du Sud, une famille française dans un lodge en Afrique. Une espèce de Daktari d'aujourd'hui. Daktari, c'est un vieux souvenir on était enfant, avec Clarence, le lion qui louchait. Et donc, j'ai été là-bas pour repérer, m'inspirer du truc. On a écrit la série et puis je suis parti la produire. Et je suis resté un an là-bas. Et c'était une expérience assez passionnante d'avoir écrit la série, de la réadapter sans arrêt parce que sur le tournage, en Afrique du Sud, on avait plein de soucis. Et de la produire vraiment en tant que showrunner parce que j'avais emmené trois acteurs, dont Philippe Basse d'ailleurs, qui maintenant est un vrai nom en télévision. J'avais emmené deux réalisateurs, un directeur de production et tout le reste, on l'avait pris sur place. L'équipe technique, des acteurs sud-africains qui étaient absolument extraordinaires, des acteurs de théâtre incroyables. C'est l'époque où l'Afrique du Sud était, bien sûr, l'apartheid était fini, mais ça s'ouvrait au monde, les pays étrangers venaient tourner. Donc, il y avait tout un tas d'acteurs de théâtre extraordinaires et on tournait en double langue.
Redis le nom alors de la série.
Indaba.
Indaba.
Qui en zoulou voulait dire la maison ou la bienvenue, je ne sais plus très bien. C'est une série qui a été diffusée par M6 pendant 7 ans.
Ah bien.
Et c'était une série de 26 épisodes qui est des aventures africaines, donc on tenait dans une réserve, on avait des lions, des éléphants, des machins.
C'est original.
Ouais, c'était vraiment super. Et pour moi, c'était une expérience de, comment dire, après l'avoir écrite, avec quelques scénaristes, la fabriquer. C'était vraiment le rôle du showrunner. C'est moi, j'étais sur le... Enfin, je vivais là-bas, quoi.
Je suis resté
un an. Ouais. On avait 3 mois de préparation, 6 à 7 mois de tournage. Et je vivais sur place. D'accord. Donc, c'était vraiment showrunner, comme on dit maintenant. Okay. Une série que j'avais en grande partie écrite, en gérant tous les problèmes, tous les machins. Quand on fait une série en Afrique du Sud, on privilégie les scènes extérieures, par définition, parce qu'il fait beau. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la saison des pluies arrive assez vite là-bas. Et qu'à un moment, quand il se met à pleuvoir beaucoup, on transforme des scènes d'extérieur en intérieur. Mais il y a un moment, il y en a qu'on ne peut plus transformer. Une scène d'un rhinocéros dans une prairie, on ne peut pas la mettre dans le salon. Donc on a eu à gérer plein de problèmes, mais c'était vraiment une expérience formidable. Et la série a été diffusée pendant 6 années de suite sur M6. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis passé vraiment auteur. J'ai fait une série sur TF1 dont j'étais à l'origine qui s'appelait Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ouais. Après, il y avait une équipe évidemment. Là, j'étais qu'auteur, j'étais pas du tout producteur. Mais ça a été une belle aventure parce qu'on a pu faire à TF1, en tous les cas sur la saison 1 et même la 2, un peu la série qu'on voulait. Il y avait un directeur de la fiction à l'époque qui était anglo-saxon, qui venait du Canada, donc qui était en mode auteur. Et on a fait une belle série qu'on a trouvée vraiment... Voilà, c'était la série qu'on voulait faire. Et après, je me suis rapproché à nouveau de la production. Alors, j'avais écrit un roman entre-temps qui était publié chez Anne Carrière, dont on essaie d'ailleurs de faire une série, qui est un grand roman d'anticipation, mais gros format, un gros budget. Et puis, je me suis rapproché de la production parce que pas mal de groupes m'avaient dit « Viens, on monte une boîte ensemble, etc. » J'avais toujours dit « Ouais, pourquoi pas, mais bon. » Et un groupe est venu me voir, c'était Making Prod à ce moment-là. Donc, ils commençaient à s'étoffer un petit peu.
D'accord. Là, on est il y a combien de temps ? Une dizaine d'années, tu dirais ?
Il y a 6-7 ans à peu près. Okay.
Parce que là, tu avais été indépendant, tu étais toujours un scénariste.
J'étais auteur, en fait.
Tu avais fait une quinzaine, 15 à 20 ans même de pur scénar.
Ouais, exactement, genre 17-18 ans.
T'aimais bien cette vie. Alors là, je digresse un peu, mais c'est vrai que c'est une vie particulière d'aller de projet, en script, on attend les finances. Mais t'as aimé, toi, cette vie en
Moi, j'ai adoré ça parce que je sais pas pourquoi, à un moment, j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de vendre ce que j'écrivais.
Te confronter à la création.
Alors après, c'est la psychologie de comptoir, mais j'avais besoin d'écrire. Je pense qu'un auteur, à un moment, quand il a vraiment la niaque, il a vraiment besoin de raconter des choses, oui, il va tout faire pour y arriver.
Est-ce que c'est dur pour la vie de famille ? Je pensais à ça parce que quand tu racontais « je pars pendant une année en Afrique du Sud », forcément, je me disais « ah oui, comment ça se complète avec une vie perso ?» sans tout dévoiler, mais c'est un sujet qui est important sur des vies comme ça aussi.
Ça, c'est parce que je l'ai fait un an et ma femme est venue et c'était super. Après, quand tu es scénariste, tu es à Paris, parfois tu vas... C'est rare, un scénariste, il n'a pas besoin. Tu vas en repérage pour un truc. On a été à l'île de la Réunion pendant 3 semaines pour repérer pour un film, mais c'est plutôt rare. Un scénariste, il bosse. Alors, moi, je ne bossais pas de chez moi parce que je n'aime pas bosser de chez moi. Je louais un bureau en externe, centre d'affaires parce que je n'aime pas bosser de chez moi. Mais après, un scénariste, c'est quelqu'un qui est sédentaire.
Toi, tu préférais être dans un endroit où
il y a
du monde.
Oui, moi, je ne bosse jamais chez moi. Je n'arrive pas. Je deviens.
Un peu schizo.
Je deviens schizo, je n'arrive pas. Donc, j'avais loué dans un centre d'affaires. Et d'ailleurs, c'était marrant. Il y avait pas mal de gens comme ça, des petites boîtes, des grandes, des trucs. Donc, c'était plutôt sympathique. Jusqu'au moment où j'ai basculé en production, parce que en effet Making Prod m'a proposé qu'on monte une boîte ensemble, on a monté une boîte ensemble, et puis quand Making Prod est devenu Makeever, qui a été vendu à Media One, j'ai suivi le mouvement. Donc voilà le chemin à peu près.
Dis donc, c'est une sacrée storytelling, un beau parcours. En tout cas, on sent que tu as suivi ta passion et il y a eu plein de projets, de projet en projet. Alors, on va aller un peu plus sur le sujet du scénar et des séries. Parce que donc, toi, finalement, c'est plus la série maintenant, tu dirais.
Plus la série, oui.
Et voilà, qu'est-ce qui te guide, toi, finalement, dans les projets ? C'est beaucoup les auteurs, c'est le concept,
En tant que producteur ?
Ouais, que prod et tes goûts même, ce que tu valorises, toi, aujourd'hui, finalement, comme type de projet.
Alors, ça, c'est une analyse très personnelle parce qu'il y a deux axiomes, je trouve. Un jour, une directrice de fiction de France Télévisions me dit « Mais c'est quoi ta ligne éditoriale ?»
Oui, la fameuse question.
Et je répondais « C'est ce que j'arrive à vendre. » Parce que c'est gentil d'avoir des lignes éditoriales, mais c'est ce qu'on arrive à vendre.
C'est un peu le truc qu'on dit après, la ligne éditoriale.
Voilà, donc personne n'a vraiment de ligne. C'est ce que... Moi, je pense, mais ça c'est très perso et très subjectif, que dans nos métiers, soit tu es du côté du diffuseur, soit tu es du côté de ceux qui proposent et qui font. Les auteurs, les réalisateurs, les producteurs. Et on ne sait jamais ce qu'ils veulent. Peut-être certaines personnes arrivent à deviner, à avoir la clé de ce qu'ils veulent. Peut-être certaines personnes passent par des relations politiques puissantes qui les aident évidemment à passer des projets. Pour le commun des mortels dans nos métiers, moi je crois qu'il y a un truc, c'est la créativité et la conviction.
Voilà.
C'est-à-dire croire des trucs et puis
essayer, aller avec le bâton de pèlerin.
Ouais, voilà, je crois. Par exemple, le dernier film que j'ai produit, moi j'ai pas encore beaucoup produit. Le dernier film que j'ai produit, c'est un film pour France Télévisions, un beau film historique, plutôt très cher. Il s'appelait Deux femmes.
Ah oui, j'ai vu ça.
Avec Odile Villemin, avec Aurélien Recoing. Enfin, un beau film prestige qui a fait des festivals, qui a eu 4 prix dans les festivals, dont le grand prix du jury à Luchon, un prix à New York, une presse formidable.
Redis un peu le pitch.
Le pitch, c'est une erreur judiciaire en 65.
L'affaire Villemin.
Voilà, c'est une femme qui paye sa liberté de mœurs par une accusation pour un crime qu'elle n'a jamais fait.
Pas mal.
Et donc, elle va s'en sortir, mais c'est parce qu'elle est considérée comme une femme trop libérée en 65. C'est pas 68, c'est avant 65. Donc, une France qui est très corsetée et qui est très étouffée. Et c'est une femme qui vit de manière libre. Et à l'époque, c'est une pute, quoi. Et quand il y a un crime dans le bled où elle est, assez vite, les flics qui n'aiment pas ce genre de femme disent « ça peut être qu'elle ». Et ça la dégrange aux enfers. Et ce qui est très émouvant comme film, c'est que à un moment, le flic l'accuse à charge, donc elle est incarcérée. Et puis le procureur dit « allez, on fait un exemple, une punition exemplaire ». Et il donne le dossier à une jeune juge d'instruction. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Qui voit que le dossier a été fait à charge, qui voit que tout est bidon et qui se met contre vents et marées à défendre cette femme contre la hiérarchie masculine, contre le procureur, contre le flic, alors qu'elle ne sera jamais amie avec elle. Et c'est très émouvant parce que c'est la comédienne qui joue, c'est Agathe Bonitzer, qui est absolument éblouissante. Et la confrontation des deux est vraiment intéressante parce qu'elle va la sortir du truc, elle va la libérer. Et on sait qu'elles ne seront jamais amies parce qu'elles sont trop différentes. Mais c'est une belle histoire.
C'est fort sur la féminité, même avant l'heure, puisque dans les années 60, avant même 68 et la libération.
Exactement.
Donc là, c'était adoré de faire ce projet. On sent
que t'as mis. Ce qui est marrant, c'est que je parlais de conviction et d'envie, c'est que ce projet, je l'ai présenté un an avant qu'il soit pris. Personne n'en voulait. Aucune chaîne, personne n'en voulait. Je l'ai représenté un an plus tard parce que j'avais eu une aide d'écriture assez énorme sur ce projet. Et ça m'avait motivé à rappeler France Télévisions en disant, écoutez, des gens croient à ce projet, je voudrais vous le représenter parce que je pense qu'il faut le réexaminer. Et ils m'ont dit, bon, oui, ok, et puis ils l'ont pris.
D'accord.
Alors qu'un an avant, personne n'en voulait. Donc
il faut être tenace.
Dans la boîte, on a deux gros projets en développement. On a un qu'on n'arrive pas à faire pour le moment. On a signé la marque Cousteau, le fameux explorateur Cousteau. Mmh. On est passé par le fils.
Oui. Il y a eu le long métrage L'Odyssée, d'ailleurs, que tu avais dû voir.
D'ailleurs, qui est inspiré du bouquin du fils de Jean-Michel Cousteau. Nous, on a signé avec Jean-Michel Cousteau une exclusivité sur sa marque. Et on a imaginé une série qui est une espèce d'Erin Brockovich des océans. Donc, une jeune femme qui rentre dans ce milieu, qui ne connaît rien et qui va devenir tout doucement une Cousteau féminin. On n'a jamais réussi à le vendre.
Ah mince, t'avais combien d'épisodes là-dessus ?
On avait, c'était une série, on avait un pilote, on avait une arche, c'était pour faire 6 ou 8. On n'a jamais réussi à la vendre pour le moment, et peut-être que dans 2 ans on va la vendre.
Donc c'est ça qui est dur dans ce métier quand même, c'est qu'il te faut la lumière d'un diffuseur, et il y a des moments où on rame, quoi.
Il y a des moments où on rame, bien sûr. Oui, c'est un métier très
compliqué. C'est quoi, toi qui as fait ça longtemps, c'est quoi la règle ? C'est une espèce d'alchimie, il n'y a pas trop de règles, c'est une rencontre.
Je pense que si on la savait, on serait tous riches. Je pense qu'il n'y a pas de règles.
Mais il y a une histoire de fit humain quand même assez fort, où en vrai, c'est quand même avant tout l'écrit, parce qu'il y a aussi la manière dont il bosse. Il y a des comités, ce n'est pas qu'une personne qui décide.
Bien sûr, c'est très structuré. Mais je pense que personne n'a la clé. Ou alors peut-être, quand on voit, il y a certains producteurs ou productrices qui produisent énormément. Il y a un moment, ils ont un truc. Je pense que d'abord, le succès amène le succès. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a évidemment être là au bon moment, avoir un relationnel qui soit bon. Évidemment, si on se fâche avec tout le monde, ça ne va pas aller, mais ça, c'est les évidences. Essayer de sentir l'air du marché, ne pas présenter aux chaînes des choses qui ne sont vraiment pas du tout dans leur ligne. Donc, il y a tout un tas de facteurs comme ça, mais après, puis il y a des cycles aussi.
Est-ce que la porte par laquelle rentre est très importante ou en vrai, moins qu'avant, tu dirais, entre rentrer par un DG, un directeur de la fiction ou un comité, tu dirais pas forcément maintenant ?
Moi, de toute façon, je crois que tout existe. Il y a parfois la chaîne qui va donner un film à une boîte parce qu'ils ont fait un film pour eux, ils sont endettés, donc on va leur donner un autre film à faire pour se refaire. Il y a aussi parfois une chaîne qui va donner un film à une boîte de production un peu en vue pour la tester. Enfin, il y a tous les cas.
Mais c'est moins concentré qu'avant, tu penses ? Parce que ça, c'est important, la relation entre qui a produit, qu'est-ce qu'il a produit et les chances que ça aille au bout. Tu dirais que ça tend à se rationaliser ou que...
C'est-à-dire que maintenant, je pense que les boîtes indépendantes ont beaucoup de mal.
D'accord.
Pour faire des séries, par exemple. Je pense que des petites boîtes indépendantes, elles auront de plus en plus de mal parce que simplement la chaîne en face veut être sûre que si le mec se casse la jambe, il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre le truc.
La garantie de bonne fin, comme on dit.
Donc ça, je pense que c'est pour ça que le métier se concentre énormément. Après, si on avait la clé de comment arriver à vendre, il y a des gens qui ne vendent pas beaucoup, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça bouge aussi, ça change. Les gens qui ont vendu énormément il y a quelques années et qui ne vendent plus. Des gens qui ont vendu rien et qui vendent beaucoup. Si on avait la clé, si on la connaissait.
Tu trouves qu'il y a un renouvellement du monde de la prod, toi, en vrai, ou pas ? Il y a des nouveaux prods qui émergent ?
Il y a des nouveaux producteurs qui émergent beaucoup, mais il y a quand même une consolidation, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 boîtes qui font l'essentiel du marché. Et puis après, plein de gens qui apparaissent, bien sûr. Il y a beaucoup de gens de cinéma qui sont venus à la télévision, mais ils déchantent pas mal, parce que ce n'est pas si simple. Mmh. Il y a des gens qui ont pensé qu'avec les plateformes américaines s'installant à Paris, ça allait être l'Eldorado. Ça l'est pas complètement, ça l'a été un petit moment, puis là on sent que ça se resserre beaucoup. C'est un marché compliqué, c'est un marché compliqué. Et quand on passe de auteur à producteur, c'est un autre métier en fait.
D'accord, d'accord.
Alors on garde l'écriture comme ça dans un coin de sa tête, et puis quand on parle avec les auteurs, ça se passe plutôt bien, parce qu'on sait ce que c'est qu'un auteur, on est passé par là, on sait les affres de la création ou les flits, donc ça passe plutôt bien. Mais après, c'est un autre métier.
Alors c'est pour ça aussi que tu as eu ton rapprochement avec Media One, qui est très important sur le marché. Ça te donne aussi une solidité dans ton partenariat, j'imagine.
Bah, par exemple, on développe, mais ça je crois que j'en avais parlé, on a pris les droits de la série de livres Angélique, Marquise des Anges.
Oui,
qui est un grand classique. Marque que les jeunes ne connaissent pas forcément bien, quoique beaucoup de femmes jeunes connaissent.
Qui est un grand
classique, qui a vendu 200 millions de livres dans les années 50, 60, 70, qui a fait 5 films.
Redis la comédienne encore.
C'était Michel Mercier.
Michel Mercier, voilà.
Et Robert Hossein.
Voilà, Robert Hossein.
Donc c'est quelque part une œuvre
un peu mythique,
populaire, quoi, mythique, ouais, du patrimoine français et italien et allemand. Et russe, donc c'est une marque extrêmement connue. Et de nos jours en télévision, ils courent tous après des marques, parce que ce qu'on appelle les IP,
oui,
les Intellectual
IP.
Property. Et donc on a signé les droits de ça. Et là, par exemple, pour produire une série pareille, il faut être adossé un groupe, parce que l'entité avec laquelle on va le faire nous a demandé très vite, bon, vous êtes une petite boîte, c'est très bien, mais alors on était déjà avec Media One, donc pas de problème. Mais c'est vrai que le fait d'être avec un groupe comme Media One, qui est très puissant, qui est très fort, qui a une vision très ambitieuse, bah oui, c'est sans comparaison. Le faire sans un groupe comme ça, c'est pas possible.
Bien sûr, parce que les gros projets de série aujourd'hui, en France, tu dirais, on arrive, le coût d'un épisode, c'est, on arrive, ça peut être des 500 000, 1 million au max.
Ah non, non,
c'est les Américains.
On va plus loin, par exemple, je crois que l'une des séries les plus chères en ce moment, ça doit être Les Combattantes ou Le Bazar de la Charité. Alors, je connais pas les chiffres, mais j'ai entendu parler de 20 ou 22 millions les 8 épisodes. Donc on est
là, on se rapproche vraiment des Américains. Là.
Alors, les Américains, ils sont encore au-dessus, parce que quand on est à 2-5 millions l'épisode en France, c'est déjà beaucoup.
Ouais.
Les Américains, ils montent à 5, 6, 7.
Je crois que tu as des Stranger Things qui étaient à 3 millions. Donc
non, mais qui sont beaucoup plus.
Ah, oui, exactement.
Par exemple, Succession, la dernière saison, j'ai entendu dire qu'ils étaient à 10-15 millions l'épisode.
D'accord.
Donc là-bas, ils ont des mesures qui n'ont pas de comparaison. Et c'est vrai qu'Angélique est une série qui va être très chère. Donc qu'on développe avec un groupe, sinon c'est pas possible, quoi. Mais c'est
super,
c'est
on souhaite
projet.
Y arriver. Bah là,
on
t'as un pitch arriver. Qui est assez fort là.
Angélique,
passer,
c'est un pitch en lui-même, quoi. En plus, pour Angélique, c'est intéressant, c'est qu'on repart non pas des films de l'époque qui ont évidemment beaucoup vieilli, on repart des livres qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus féministes. Et c'est totalement dans l'époque, c'est girl power, c'est la féminité.
Donc t'aimes bien l'historique, toi, remettre un twist de modernité dans des trucs historiques.
Alors... Oui, c'est le hasard qu'on en a fait deux comme ça. Mais celui-ci, pour nous, c'est un énorme enjeu. Quoi. À réussir Angélique, ça va être un gros enjeu parce que c'est une marque extrêmement connue. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ?
D'accord.
Donc on a beaucoup travaillé
là,
sur l'adaptation.
Là, t'as tout développé, t'as tout la Bible.
Pas
et
tout,
tout ça.
On est en partie développé, pas complètement, mais on avance bien. On a une équipe formidable. Enfin bon, voilà, c'est un projet très excitant, très alléchant.
Projet.
Et on sait qu'à l'international, ça a du poids parce qu'on est, en fait, c'est une marque presque plus connue en Italie qu'en France, une marque extrêmement connue en Allemagne. Et alors, c'est pas à la mode en ce moment, mais en Russie, c'est... C'est une icône, Angélique. D'accord.
Tu peux pas dire qui t'aimerait pour Angélique, non. Ça c'est
non, parce qu'on n'a pas encore trouvé forcément la perle.
Une Eva Green,
on regarde.
Je vais réfléchir à la shortlist.
Elle est trop âgée maintenant.
Ah, d'accord.
Elle est trop âgée. Elle a
quel âge Angélique dans le roman ?
Dans les romans, les romans, elle démarre à la 12 ans. On n'a jamais vu le premier tome qui a jamais été filmé. Enfin, la première partie du premier tome, elle a 12 ans. Nous, on va la prendre quand elle aura 24-25. Et on va suivre tout le parcours de celui-là parce qu'Angélique, en fait, c'est une saga qui dure 13 romans.
D'accord.
On a une saison là, qui utilise un roman et il y a 13 romans.
Oui, tu as du matériel.
Donc, il y a du matériel.
Alors, on arrive à la dernière partie du podcast. Aloda, pourquoi tu l'as appelée Aloda alors ?
Aloda, c'est le nom d'une petite alouette qui est toute petite et qui vole un peu partout. Et je suis un peu comme ça.
C'est
moi,
l'agilité un peu.
Voilà, je suis très curieux. Je vais toujours voir plein de trucs parce que je pense que le métier, on doit être curieux, on doit être ouvert, on doit rester très ouvert. Et donc voilà, et c'était le nom que mes parents avaient donné à leur maison qu'ils avaient construite dans le centre de la France.
D'accord.
Donc j'ai repris, au lieu de faire JMA Film, je trouvais ça un peu con, j'ai pris Aloda 2, enfin Aloda Film, parce que je trouvais ça plutôt joli.
plateforme, tu disais que finalement, on en revient. Enfin, il y avait un très fort engouement il y a quelques années, mais finalement, le marché se resserre un petit peu.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est quand les bureaux parisiens des plateformes américaines ont ouvert, à commencer par Netflix et puis après Amazon et Apple et tout ça, ils avaient un vrai besoin de programmes français. Mmh. Netflix, par exemple, ils avaient besoin de beaucoup de programmation française qu'ils n'avaient pas. Donc, ils avaient tendance à commander en disant vite, vite, écrivez et vite, vite, produisez.
Parce qu'ils avaient un manque, quoi. Il fallait remplir.
Et donc, à l'époque, ils signaient des contrats où il y avait écriture et production. Donc, ça allait très vite. Et quand on va très vite, souvent, on fait des séries qui ne sont pas terribles. Et donc là, ils ont un peu le mouvement inverse où ils ont fait beaucoup de séries qui n'ont pas marché, qui n'étaient pas forcément bien. Donc, et puis, ils ont du programme. Donc maintenant, ils prennent un petit peu le sens inverse, un peu comme les chaînes normales, c'est-à-dire qu'ils commandent des trucs, ils développent. Puis si c'est bien, ça passe en production, mais il y a la chute. Donc là, on sent qu'il y a des nouveaux...
Ils se processisent, comme on dit.
Oui, voilà, ils font gaffe, quoi. Puis ils ont moins besoin de programmes qu'avant. Puis il y a quand même 6 plateformes en France qui ont déboulé, c'est quand même énorme. Et on voit bien que le marché, personne ne peut avoir 6 abonnements
différents.
Intéressant
ce que tu dis sur la France, parce que c'est vrai que Netflix, je trouve qu'ils ont été très marquants pour pas mal de prods étrangères, notamment Fauda ou Casa de Papel, etc. Mais c'est vrai que là, sur la France, alors là, je trouve qu'ils ont réussi un beau coup avec Tapis. Tu l'as vu, j'imagine.
Moi, j'en ai vu 2, je trouve ça plutôt vachement bien.
J'ai bien aimé.
Il paraît que c'est très, très romancé par rapport à la vie de Tapis, mais bon. Mais moi, j'en suis au deuxième, je trouve ça vraiment bien.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que les acteurs étaient très, très bons. Lafitte et Joséphine Japy, j'ai trouvé exceptionnel. Et j'ai
trouvé bien.
Ah oui, il est génial. Et je trouve qu'on retrouve à ce côté aussi un peu d'avant, quoi. Finalement, Tapis, c'est un personnage un peu d'avant. Avant, haut en couleur.
C'est filmé années 70, c'est fait exprès.
Oui, un peu comme a fait Jiménez dans La French. Ils ont fait un petit look un peu.
Ouais.
Mais j'ai bien aimé. T'es pas encore allé au bout?
Non, je suis au deuxième et j'avoue que je les savoure parce qu'à chaque fois, t'as envie de continuer. C'est vraiment bien.
Non, là, tu sens qu'ils ont un peu taffé le scénar. Avec Tristan Seguela, que j'ai vu qu'ils connaissaient déjà Laurent Lafitte.
Ouais, absolument.
Ils avaient tourné ensemble.
Non, c'est une série qui est bien, je trouve. C'est vraiment bien.
Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sur les Françaises, je t'en citerai pas 10 000 de Netflix des 4 dernières années.
Il y a fameux Lupin.
Ah oui, Lupin, bien
qui
sûr.
Qui a été évidemment un gros succès. Oui, puis Lupin. Après, c'est plus compliqué, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, ce qu'on en voit de l'externe, nous, on a bossé avec eux pendant 2 ans sur un projet. Ce qu'on en voit de l'extérieur, c'est qu'en effet, ils font plus attention, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont développer avant de rentrer en production, ils vont s'assurer que ça correspond à ce
Donc les chaînes, c'est intéressant, reprennent un petit peu la main. D'ailleurs, elles n'ont jamais trop perdu parce que quand on prend 10%, c'était quand même France 2. En thérapie, Arte, qui était une série incroyable. Et puis
HPI,
la Bureau des légendes, HPI.
HPI qui fait le plus gros score de TF1 depuis, je ne sais pas, 20 ans.
Donc les chaînes, quand même, elles ont été challengées, elles gardent ce métier d'édito et de travail de prod.
Oui, on sent qu'elles reprennent du poil de la bête. Elles demandent des projets. Ça reste quand même notre marché principal. D'accord. Pour les producteurs en France, les chaînes mainstream restent notre marché important.
Finalement, tu dirais qu'elles ont une expertise un peu plus poussée sur le développement? Toi qui as tout vu, c'est des gens qui ont forcément un peu plus de connaissances que les plateformes?
Non, pas forcément, parce que dans les plateformes maintenant, c'est les Français qui ont été engagés. Donc, c'est des gens qui étaient à Canal ou qui étaient dans les chaînes ou qui étaient producteurs. Donc, finalement... À une époque, c'était les Américains, mais maintenant, toutes les plateformes américaines basées en France, c'est des équipes françaises.
D'accord.
Netflix, c'est que les Français. Amazon, c'est les Français. Ils ont été chercher des gens du métier qui sont... À Netflix, par exemple, c'est une équipe de gens qui étaient des producteurs, qui étaient des conseillers de chaîne, donc ce sont des gens qui connaissent parfaitement le métier. Mais il y a aussi le fait que c'est difficile de faire des bonnes séries. La compétition est telle que c'est compliqué de faire une série originale. C'est quoi un sujet original qui n'a pas déjà été fait? Donc, c'est... L'art est difficile. Hein. En fait, on industrialise un métier sur un produit qui n'est pas tellement industrialisable. Parce qu'une bonne série, c'est quoi? Un bon scénario, c'est quoi?
En tout cas, depuis 3 ans, moi, je vois une vraie amélioration des diffuseurs français.
Bien
on
sûr.
Sent que ça monte le niveau entre le scénar, la mise en scène, la production.
Bien sûr.
C'est vraiment intéressant. Et alors, petite question. Alors, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. C'est tes goûts en matière de film, ciné, musique, série. Quelques œuvres qui t'accompagnent, qui t'ont marqué? Donc voilà, en tant que spectateur, là, pour le coup.
Alors, en tant que spectateur, en série, évidemment, j'ai adoré Casa de Papel.
Oui.
Je trouve Succession éblouissant.
Oui.
Je me dis, je ne pourrais pas écrire ça, tellement c'est sophistiqué,
oui.
Tellement
c'est incroyable,
c'est bien.
Cette série, oui.
C'est une série incroyable. J'ai adoré Le Jeu de la Dame, évidemment.
Oui.
Je l'ai vu 3 fois.
C'était bien.
Je trouve que cette série est d'une qualité incroyable, éblouissante. Quand on sait que le gars, il a mis, je ne sais pas, 14 ou 15 ans à la montée.
Combien ils avaient d'épisodes sur Le Jeu de la Dame?
Je crois qu'il y en avait 7.
D'accord.
Parce que c'était une mini-série.
C'était très concept. Il y avait un côté très concept. Un peu comme Casa de Papel.
Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'aime bien en film, moi j'ai des goûts assez éclectiques. J'ai adoré Babylone, par exemple, qui n'a pas été un succès en Amérique, mais je trouve ça merveilleux. Oui. J'ai été voir Oppenheimer récemment, qui est quand même un chouette beau film. J'aime bien les films où il y a beaucoup d'émotions. Non, j'ai des goûts assez éclectiques.
Tu retournes au cinéma autant qu'avant, ouais, ou pas, même les dernières années?
Ouais, je trouve que le cinéma est un moment formidable.
Oui. C'est pas je trouve qu'on prend plaisir d'y retourner maintenant, par rapport à l'engouement des séries et tout. C'est sympa de retourner.
Puis après le Covid.
Oui, c'est sûr.
Et après le Covid, de retourner au cinéma, voir ça en salle, moi je trouve ça merveilleux, c'est un spectacle.
T'aimerais revenir dans le ciné, toi, ou pas, ou t'es que...
Mais moi, j'ai jamais été dans le ciné, en fait.
Enfin, je parlais de Yves Rousset.
Ah oui, mais à l'époque, il était déjà pas mal passé en télévision. Ouais. Enfin, il y venait, et puis moi, je suis rentré à un moment où lui, il arrêtait. Donc, j'ai jamais été en cinéma. J'ai écrit un long métrage qui a failli se faire chez Pathé, qu'on reprend là pour essayer de le faire, qui est une belle comédie, qui a failli se faire avec l'Artigot. Ça devait se faire et ça s'est pas fait. L'Artigot, donc là, on le reprend, on essaie de le monter avec une plateforme, probablement, parce qu'elle cherche pas mal ça. Mais j'ai jamais été en cinéma, j'ai toujours été du côté de la télé.
Télé est un bon médium pour toi là-dessus. Et en musique, une musique qui t'a un groupe, ou ça peut être musique qui te marque?
Ouais, j'ai des goûts. Alors nous, on a un compositeur qui fait les musiques de tous nos films.
Ah oui,
c'est Nicolas Jorel, c'est un compositeur formidable, qui a eu pas mal de prix d'ailleurs, qui fait la musique de tous nos films.
Ah oui.
Il fait des choses qui sont vraiment éblouissantes.
C'est important dans les séries, la compo. Bah, même au ciné, la compo est super importante.
Bien sûr, c'est extrêmement important. Non, pareil, j'ai des goûts très éclectiques, je peux écouter un peu de tout.
D'accord.
De la variété. On a par exemple là, en développement, une série policière qui est assez amusante. On va voir si elle passe, qui est un mix polar et chanson de variété. C'est une flic qui a une particularité, c'est qu'elle est née chez enfin son père était disquaire. Et donc toute sa jeunesse, elle était dans la boutique de disques, à écouter tous les disques du monde qui existent. Donc elle a une connaissance du monde de la variété insensée, qui dans ses enquêtes l'aide, parce qu'on a tous un rapport particulier avec la musique. Et donc c'est un truc assez amusant où on irait chercher pour chaque épisode une chanson emblématique du répertoire français. Ce qu'on avait fait quand on avait fait Mes amis, mes amants, mes emmerdes, qui est donc la chanson d'Aznavour, dont on a été chercher les droits pour avoir en musique de générique cette chanson-là qui est emblématique. Quoi.
Et la photo, alors, qu'est-ce qui te plaît autant là-dedans? Et est-ce que tu as des photographes qui t'inspirent, toi? C'est le côté instantané, sur le vif, que tu adores?
Moi, j'ai toujours adoré la photo. Ça a été ma passion depuis toujours. C'est la lumière, c'est l'image. Je suis très sensible aux chefs-op qu'on choisit sur les films.
Alors, les grands chefs-op que t'aimes bien, toi, qui t'ont marqué
Oh, je ne pourrais pas te dire les noms. Je sais que j'utilise en télévision, mais... non, je ne pourrais pas comme ça te donner des noms, ni des noms de photographes. D'ailleurs, si, un Stephen McCurry a toujours été un exemple pour nous. Tu sais, le gars qui a fait la photo de la jeune afghane, gamine afghane, qu'il a refotographiée d'ailleurs 30 ans après, qui est maintenant une
avec
dame.
Avec le voile, elle est marquante, celle-là.
Elle est marquante, donc ça, c'est les grands photographes. Mais moi, la photo, je la fais pour moi et je cours pas les expos de photographes. Mais la photo, ça m'a toujours accompagné. J'adore ça. Pourquoi? Je sais pas. J'ai le souvenir d'une photo comme ça. Comme quoi, je pense que la photo, c'est l'instantané. Moi, je suis toujours en moto et dans ma moto, j'ai toujours un appareil photo, mon gros Canon. Et quand on travaillait à McEver, on passait tous les matins à la Concorde. Et un soir, je passe en moto à la Concorde et je vois qu'ils ont oublié d'éteindre les fontaines, donc les jets d'eau. Et je sais que dans la nuit, il va geler. Et je repasse en un matin, il est 8h30, il n'y a pas grand monde. Le soleil se lève et je vois que toutes les fontaines de la Concorde sont habillées de glace.
Ah, c'est pas mal.
C'est-à-dire toutes les statues sont habillées de glace. Et là, je prends l'appareil, je fais 100 photos. Il y en a 3 qui sont incroyables. Et on repasse une heure après, il n'y avait plus de glace parce que ça avait fondu. Et c'est ça la photo, c'est choper c'est la le vie, moment.
Quoi. C'est ronçard. Quoi.
Mais il faut avoir l'appareil.
Voilà.
Et un jour comme ça, un autre jour, dans le même coin.
Et une moto peut-être aussi, ça peut servir.
Voiture, donc pas loin à la rue de la Paix et donc la place de la. Comment s'appelle la place au bout de la rue de la Paix?
Vendôme.
La place Vendôme, pardon. Et là, il y avait une pluie incroyable et quelques secondes après, grand soleil, mais il y avait un espèce de pellicule d'eau sur toute la place Vendôme. On aurait cru Paris à Venise parce qu'il y avait comme si c'était un lac et puis il y avait toute la place Vendôme autour. Bah, tu fais une photo et tu passes un quart d'heure après, il n'y a plus d'eau et donc il n'y a plus de photo.
Bon, voilà. Écoute, super. Et la toute dernière question, c'est celle que je pose, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans le scénar ou la prod, évidemment. Donc, le conseil que tu donnerais sur la jeune génération.
Ça, on le fait souvent parce qu'on a souvent des jeunes qui viennent nous voir. Moi, je crois, scénariste, alors prod, c'est pareil. Hein, mais je pense pour un scénariste, en tous les cas, c'est être curieux de tout, je trouve. Parce que les idées de scénario, elles viennent de n'importe où. Écrire beaucoup et avoir beaucoup de projets à proposer. Mmh. Et puis, avoir des vraies convictions, c'est-à-dire croire à son sujet à mort. Mmh. Et puis, aller rencontrer les gens, aller rencontrer les producteurs.
Partager,
parce que,
quoi. Oui.
Et échanger. Les producteurs. Parce que les producteurs qui ne reçoivent pas les auteurs, c'est une erreur. Un producteur, à mon sens, hein, il doit rencontrer un auteur parce que c'est la base, c'est la source de la tous passion. Nos métiers.
C'est toujours mieux qu'un écrit flat, je dirais, de rencontrer la personne.
Oui, et puis je veux dire, le producteur, il doit être curieux de quelqu'un qui est auteur, qui se dit auteur, qui veut présenter un projet. Moi, en tous les cas, je le vois, je lui réponds et je le lis parce que dans nos métiers, l'écriture est la base de tout. La première personne qui touche de l'argent dans nos métiers, c'est l'auteur. Parce que le compositeur, il arrive en bout de course quand le film est déjà fait, etc. L'auteur, c'est le premier métier qui travaille dans la télévision ou le cinéma. C'est quelques pages qui font qu'un film devient un film. Et c'est pour ça que ce métier d'auteur m'a fasciné, c'est que tu démarres sur quelques pages, sur quelques mots, et puis ça arrive à un film. Un jour comme ça, je déjeune avec un producteur qui est un vieux monsieur assez formidable. Et je lui vends une idée, mais comme ça, sur un déjeuner, je dis, voilà, c'est un vrai cas d'un monsieur qui arrivait, alors je crois qu'il était retraité de la SNCF, mmh. et il avait un costard avec une petite rosette qui était bidon, et son truc de retraité, c'était de se glisser dans les photos officielles,
marrant,
que ce soit des ministères, ou de l'Élysée, ou des trucs officiels. Et il avait toute une collection chez lui, où il se démerdait pour savoir quelle... Et il n'avait rien à faire dans toutes ces photos, mais... Il se collectionnait lui-même en étant dans ses photos officielles. Et je parle de cette idée à un producteur. Il me dit, mais c'est génial, comme idée, je t'achète. Il me fait un chèque sur la table au déjeuner et je pars avec le chèque. Et je réfléchis pendant 3 semaines et je ne trouve pas l'histoire.
Oui.
Et je lui ai rendu son chèque. Je lui ai dit, je n'ai pas trouvé Claude. Je trouvais que c'était un point de départ formidable, mais je n'ai pas trouvé l'histoire. Et je lui ai rendu son chèque.
Tu avais l'idée, mais pas forcément
l'histoire. J'avais un point de départ, mais je n'avais pas l'histoire. Une fois comme ça, j'ai passé un accord exclusif avec Germain Delos, qui était le monsieur qui avait fondé la Comex, qui était une énorme boîte d'exploration sous-marine, etc. J'avais été le voir plusieurs fois à Marseille. Je me dis, bon, j'ai les droits de faire une série sur ce monsieur. Et pareil, on n'a jamais trouvé
le débouché.
Le fil de l'histoire. Quoi. Donc, c'est là où c'est magique. C'est magique. Et parfois, mes amis, mes amants, mes emmerdes, c'est une idée toute simple. Je suis en tournage d'un truc que j'ai écrit et produit. Une comédie où j'étais auteur et producteur. J'avais Roland McDan, Michel Créton et Gérard Rinaldi, qui n'est plus là de nos jours. Et on avait acheté 30 secondes de la chanson d'Aznavour pour une scène dans le film. Et on est sur le tournage, sur le plateau, il y a les trois papis en smock. C'était un mariage dans ce film-là. Et ils sont tous les trois sur scène de ce mariage-là, donc en tournage. Et ils chantent Mes amis, Mes amours, Mes emmerdes. Et je regarde la réal et j'ai dit, un jour, je ferai une série qui aura ce titre-là.
D'accord, t'as et eu après, le flash, comme on dit.
Je me suis dit, bon, cette chanson est tellement emblématique. Et puis... Et donc, avec un co-auteur, on écrit la série, avec Thierry Lassalle, on écrit un concept de série. Et le titre était le pitch de la série. Quand après, on avait des interviews
un
des journalistes.
Comme Tout ce qui brille.
Ils nous disaient, c'est quoi le pitch de la série? C'est le titre de la chanson, Mes amis, Mes amours, Mes emmerdes.
Okay.
Et donc, je dirais aux jeunes auteurs qu'on vit, c'est... Voilà, c'est avoir la niaque, quoi. Moi, je rencontre plein des jeunes auteurs qui ont la niaque, qui ont des idées, qui sont curieux et ils vont réussir. Donc, mais c'est et pas se décourager et ne pas penser que c'est un métier sûr. Là, on travaille sur l'équipe d'Angélique avec une jeune auteure qui est absolument brillantissime. Et un jour, elle me dit quand même, c'est un métier qui n'est pas sûr. J'ai dit, non, c'est pas sûr.
C'est sûr que c'est pas sûr.
Et aussi, un truc important dans le
métier. Ça veut dire qu'il faut des gagne-pains à côté quand même un petit peu. Ça peut aider. C'est quand même un plus.
Bien sûr, évidemment.
Il faut tenir.
Et il y a aussi un autre truc, c'est que la première réponse dans le pays, quand on propose quelque chose à une production, à une chaîne, à un diffuseur, à une plateforme, la première réponse, c'est non. On n'a pas besoin. La première réponse de nos métiers, c'est négatif.
C'est-à-dire c'est très français ou c'est globalement?
Non, c'est globalement. C'est par en Amérique. Il y a, pour une série qui se fait, il y a 2000 projets qui circulent.
On t'attend pas, quoi.
On t'attend pas. La première réponse, on n'a pas besoin. Tu ne corresponds pas à ce qu'ils cherchent. Et quand ça passe, c'est un peu une exception. Et
il faut souvent pas mal de refus avant de dire oui. Parce que moi, j'avais vu la masterclass, même Vince Gilligan, Breaking Bad. Il disait qu'il s'était fait 200 refus avant que quelqu'un de Sony dise oui. Donc,
Le jeu de la dame.
Il y en a plein d'histoires comme ça.
Il y en a des milliers. Le jeu de la dame.
Desperate Housewife, c'est la même, je crois. Il dormait dans sa voiture avant de la série.
Alors peut-être qu'ils ont un peu renoncé.
Oui,
mais
après,
ils font le jeu de la dame, il dit qu'il a obtenu les droits du livre il y a 20 ans. Et il se trimballe partout avec son projet de série. On lui dit, mais une jeune femme qui joue aux échecs, ça n'intéressera personne. Personne ne s'intéresse aux échecs, c'est mort. Et puis Netflix dit, on y va. Et ils font une série qui est extraordinaire. C'est pareil pour Squid Game. Enfin, Il y a des milliers d'histoires comme ça.
Ça, c'est incroyable. Et juste dernière conseil, ça c'est plus qu'une question de curiosité personnelle sur le scénar. Tu conseilles de développer un peu pour quand même accrocher les producteurs et partager avec eux et développer avec eux, ou qu'il faut parfois des scénars finis? Parce que c'est un gros taf de livrer une œuvre. Quel point de vue tu as
là-dessus? Moi, j'ai le point de vue américain là-dessus. D'ailleurs, nous, le premier scénar qu'on a écrit, on ne l'a jamais vendu. Mais c'est un exemple d'écriture qui permet à des productions, quand tu es jeune auteur, de dire j'ai rien écrit, de voir ton style. Et si par exemple c'est une comédie, c'était le cas là, bah une comédie, si elle est dialoguée, développée, ça permet de voir est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Donc moi je conseille aux jeunes auteurs, c'est pour ça qu'en Amérique il y a beaucoup de scripts qu'on appelle on-spec, c'est-à-dire on-speculation, que peut-être ça se vendra. Je leur conseille en effet de s'exercer à faire un scénario. Parce qu'un scénario, c'est une matière extraordinaire. C'est toujours en évolution, ça se retravaille sans arrêt. Et je pense avoir des projets... Alors, les productions vont rarement lire des scénarios tout faits quand on s'est envoyé comme ça, mais c'est un exercice formidable à faire, ne serait-ce que savoir si on est capable de faire un scénario de A à Z. Parce que le scénario, ça veut dire la structure, ça veut dire le langage, ça veut dire les dialogues, ça veut dire ce que c'est que des scènes extérieures, intérieures, enfin un découpage, ça veut dire plein de trucs. Donc moi, je trouve que, ouais, c'est vraiment... intéressant, c'est une très bonne école.
Mais par la suite, c'est bien de travailler main dans la main pour développer un traitement. Ça, c'est
plus après, l'aspect. Après, on n'écrit plus de scénario on spec. Quoique, là, on embarque un projet qu'on va présenter dans très peu de temps. C'est une auteure, alors je ne peux pas encore dire son nom, c'est une auteure réalisatrice qui est connue, qui fait plein de polars et qui a développé dans son coin une série de 6 épisodes entièrement scénarisés, dialogués. Et c'est bluffant d'écriture, d'émotion, de drôlerie, de force. Et elle l'a écrit, elle tourne toute l'année, enfin elle tourne beaucoup, et elle l'a écrit parce que c'est une histoire qu'elle doit écrire, qu'elle doit aboutir.
Tout existe.
Et on l'a pris et on va voir si on a la chance de le caser, mais c'est une très très belle histoire et c'est tout écrit. Et au cinquième, on est tous là à pleurer comme des fous, tellement c'est émouvant, tellement c'est fort, donc on va voir si on arrive à le vendre.
Bon. Eh bien écoute, un grand merci à toi pour ce témoignage, je pense qu'il va marquer les auditeurs, et merci à toi d'être venu au podcast.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.